Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
C'est la dernière de l'année, ouais. C'est la dernière que tout le monde attend, et je crois qu'il y a quand même beaucoup d'espoir qui ont été placés sur vous, Louis.
Non,
donc il va falloir que vous
vous
dépassiez.
Oui, bah écoutez, ça y est, dernière chronique. Déjà, 5 saisons passées avec vous, et nous arrivons à l'ultime de décryptage des absurdités télévisuelles que je me suis tapé des heures durant. Des archives, des débats tendus, parfois des clashs, ou des discours politiques plats et sans saveur. Et pour cette dernière, je me suis dit qu'il serait pas mal de revenir mois par mois sur les extraits de cette saison qui était finalement très riche. Et on commence par septembre. Qui se souvient du 10 septembre ? Ce mouvement social qui devait faire tomber Macron, et tout bloquer, selon leur slogan. Notre chroniqueur Alexis Poulain avait senti la manipulation médiatique et l'avait dénoncé sur sa chaîne YouTube.
Alors il y a un truc, c'est le 10 septembre, ce mouvement qui n'en est pas un, extrême droite, extrême gauche, gilets jaunes, séditieux, terroristes russes, déstabilisateurs de la démocratie et de la République. Qui sont les gens derrière le 10 septembre ? Et si c'était l'État ? Et si le 10 septembre allait faire pchit lui aussi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le but de la presse, des médias d'oligarques, c'est de faire en sorte de dire aux uns que le 10 septembre, c'est le fait de l'extrême gauche, ou que le 10 septembre, c'est le fait de l'extrême droite. Et donc, on ne mélange pas les torches sur les serviettes. Oh non, pas de ce pain-là avec moi. Comment ça, il est question de défendre les classes populaires ? Eh bien, on le fera, mais avec l'inter-extrême-gauche ou avec l'inter-extrême droite. Mais certainement pas avec des gens qui n'en ont rien à foutre des étiquettes politiques. Et ça les emmerde.
Toujours en septembre, mois très riche en actu, outre la démission forcée de François Bayrou, il y a eu cette fameuse affaire Le Grand Cohen, révélée par nos confrères de l'Incorrect, qui a profondément déstabilisé l'audiovisuel public au point d'ouvrir une commission d'enquête menée par le désormais célèbre Charles Aloncle, une séquence qui a fait déraper Patrick Cohen dans les locaux de France Inter, comme le racontait Pascal Praud.
L'éditorialiste qui vient régulièrement ici, que je ne citerai pas, est allé sur France Inter. Il a été pris à partie par Patrick Cohen d'une manière assez virulente, avec des mots qui ont été échangés assez forts. Et ces mots étaient tellement virulents, tellement forts, que le directeur de la rédaction, M. Philippe Corbet, directeur de France Inter, s'est excusé. Et tous les gens de la radio se sont excusés du comportement de Patrick Cohen. Ça s'est passé cette semaine, dans les couloirs de France Inter, et les excuses de Philippe Corbet, je le répète, directeur de France Inter, on dit, voilà, c'est Monsieur Cohen, c'est pas la radio, d'ailleurs, il fait une pige, je crois, à France Inter. Donc voilà le climat qui règne aujourd'hui de ce monsieur mal élevé, mal embouché, qui parle mal aux uns et aux autres, et qui ne supporte pas qu'on l'attaque.
En septembre, il y a eu aussi le terrifiant assassinat de Charlie Kirk, sous les yeux du monde entier, une mort qui en a réjoui certains, au point que des intervenants en sont venus à la justifier, comme on l'a entendu sur LCI, d'après les propos de Sergueï Girnov, et des déclarations qui lui auront valu d'être remerciées par la chaîne.
Les magas, ils ne sont pas les victimes. C'est eux qui provoquent la haine dans la société américaine. C'est eux qui détruisent les institutions américaines.
C'est eux qui meurent.
Mais ils n'ont pas été tués.
C'est eux qui meurent. C'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine aux États-Unis. Si vous provoquez la haine, vous recueillez la tempête.
S'il vous plaît, on ne peut pas dire que tuer quelqu'un est une réaction humaine. Point.
Ce qui se passe est inadmissible et c'est toujours dans le même camp. Ouais. Les victimes, ce sont les républicains.
Sauf que vous oubliez quand même que quand Trump, avec MAGA, insulte quasiment toute l'Amérique et provoque de la haine et diverse haine à la longueur de la journée, il reçoit ce qu'il reçoit.
Voilà, ça c'est intéressant.
C'est très intéressant
ce que vient de dire Sergueï. C'est exactement vous allez voir, c'est exactement les éléments de langage qu'il va y avoir dans la presse de gauche.
C'est la psychologie humaine.
Qu'est-ce que vous venez de dire, Sergueï ? Vous venez de dire que c'est de la faute des républicains, si des républicains sont assassinés.
Ils l'ont provoqué.
Bien sûr. C'est extraordinaire.
Ils l'ont provoqué.
Comment pouvez-vous faire preuve d'une telle mauvaise foi ?
On aurait pu souffler en octobre, mais non. Si je vous dis cambriolage, un monument parisien devrait tout de suite capter votre attention. Il s'agit bien sûr du Louvre et du vol extraordinaire de joyaux inestimables en plein jour. Humiliation totale de la classe politique, mais surtout de la présidente du Louvre elle-même, qui nous a expliqué tout et son contraire lors d'une commission d'enquête au Sénat.
C'est donc deux de ces vitrines qui ont été attaquées, et ce qui est très
frappant lorsque l'on est sur place, c'est qu'en fait les verres n'ont pas été brisés. Ils ont été fendus et en fait les voleurs ont passé leurs mains, mais le verre a résisté. Et on voit bien que ce sont des vitrines de très haute qualité.
Des vitrines de très haute qualité, censées être incassables, mais qui ont été fendues. Magnifique. Celle-là, faut la garder. En novembre, notre chroniqueur Joe Edgana a fait face à une machine de guerre judiciaire après la publication d'une vidéo qui dénonçait l'immigration. Arrestation, garde à vue, condamnation, la justice était 100 fois plus efficace que pour l'assassin de la petite Liana. Et face à ça, Liselotte Dutreuil, notre rédactrice en chef, a lancé un mouvement, Montrons le réel, qui connaîtra un succès retentissant sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, on est face à une justice politique qui enferme les gens qui veulent montrer ce qui se passe réellement en France. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous propose qu'on suive tous le mouvement que Joëlle a lancé, qu'on montre ce qui se passe autour de nous, qu'on montre quel est le quotidien des Français, ce qu'on doit subir quotidiennement à cause de la mauvaise gestion de nos politiciens, à cause de cette crise migratoire qu'on nous impose depuis des années. Donc partagez tous des photos, des vidéos de votre quotidien, et puis on verra jusqu'où ça va. On verra combien on est à être placé en garde à vue. Moi j'y suis prête, je pense que vous aussi. De toute façon, il y en a marre, on va arrêter de se laisser faire. Et il est hors de question que Jean-Luc Gana paye tout seul pour un tort qu'il n'a pas. Voilà, donc je lance le mouvement et puis j'espère que vous suivrez.
Et nous, on embrasse notre chère Liselotte,
bien sûr, et qui reviendra bientôt bien, en pleine forme. En décembre, Noël et le Nouvel An ont été rythmés par une actualité géopolitique intense, notamment en Ukraine, où un énième espoir de paix avait vu le jour en vue d'un potentiel accord. Une situation qui a donné lieu à un clash mémorable entre Vincent Hervouet et Éric Nolot.
On rigole pas avec ça, on ne prend pas une pause avec ça. C'est absolument obscène, Vincent, de se servir de la guerre pour un bénéfice guerre, personnel d'image.
Envisager la guerre, ce n'est pas souhaité. Et M. Languet a dit autre chose hier, j'étais présent sur le plateau, j'étais très attentif. Il a dit si nous livrons l'Ukraine à la Russie, il est probable, pas certain, que la Russie ne s'arrêtera pas là.
Non mais, la question...
non mais écoutez, moi je vous dis simplement, qui peut dire non, M. Poutine s'arrêtera là, il n'attaquera pas un État bâtiment membre de l'Union européenne.
Mais qui peut deviner ce qu'il y a dans la tête de Poutine ? Arrêtez avec ça. Arrêtez, vous parlez de paranoïa et complotisme, mais c'est délirant. Il y a un rapport de force. La guerre, c'est un rapport de force. Donc arrêtez d'avoir une armée qui ne fait que défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Armez-vous, musclez-vous, tenez les Russes en respect, mais arrêtez de prendre une espèce de se gonfler d'orgueil en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, c'est insupportable et c'est stupide !»
Bon.
Mais réarmez-vous réellement. On ne fabrique pas un kilo de poudre de plus depuis 3 ans.
Eh oui, c'est ce que je vous dis.
Et n'engueulez pas.
Allez-y, des actes. Arrêtez cette gloriole. Arrêtez ce discours. Agissez.
Non, n'engueulez pas Éric Nolot.
Vous savez, je ne suis pas ministre de la Défense.
C'est un ami. Avec Éric, c'est un ami.
Je ne suis pas ministre de la Défense.
Il n'est pas Emmanuel Macron.
Sur l'Ukraine, vous n'avez pas l'air de réaliser que sur l'Ukraine, l'affaire est faite. C'est réglé.
Bonne année 2026. Et oui, déjà le mois de janvier qui, malgré sa fraîcheur, était très chaud sur le plan social et notamment agricole, où les paysans étaient en route vers Paris pour crier leur colère à un empilement de crises qui pour beaucoup se résume en deux mots, Union européenne. Et d'ailleurs, un européiste convaincu, comme Georges-Marc Benamou, avait avoué, à demi-mot, s'être planté depuis la signature de Maastricht.
Georges-Marc Benamou qui est avec nous et qui va parler du bilan Mitterrand. Maastricht, vous avez voté Maastricht sans doute en 92.
Oui, mais écoutant aujourd'hui, curieusement, j'ai passé l'autre soir une discussion avec un grand Européen, qui est un copain, qui est Jean-Louis Borloo, grand Européen. Mmh. Et avec du recul, je dis, qu'est-ce que tu en penses ? Et sans m'engager pour lui, on est tous, en effet, nous qui n'avons pas écouté Philippe Séguin, très troublés. Tout en continuant à entretenir le rêve européen, mais
vous êtes trompé, et puis moi aussi, sur Maastricht.
Peut-être on s'est tous trompés dans
une sorte d'irrédit. J'ai voté Maastricht, je me suis fait avoir, c'est tout.
Voilà,
je pense à Michel Onfray qui nous écoute régulièrement. Et en fait, il fallait écouter Séguin, il fallait écouter De Villiers, il fallait écouter effectivement ce qu'il disait.
Pasqua.
Ou Pasqua. Donc le bilan Mitterrand, en fait, il est catastrophique.
Février, un mois marqué par le sang. Ce sang que les antifas de la Jeune Garde ont fait couler en tuant le jeune Quentin à Lyon lors d'une action pour protester contre la venue de Rima Hassan. Et le criminologue Xavier Hofer avait expliqué sur CNews l'incroyable impunité dont bénéficient ces ultra-violents qui, le jour venu, seront bien utiles aux macronistes.
systématiquement, depuis que M. Macron est au pouvoir, les gens qui gouvernent avec lui regardent de l'autre côté quand l'extrême gauche commet ses exactions. Systématiquement. Pourquoi ? Parce que le régime de M. Macron est un régime néolibéral et les néolibéraux n'ont qu'un seul ennemi, c'est la droite nationale. Mmh. En conséquence de quoi ? Toutes les provocateurs qui s'appellent Black Bloc, qui s'appellent Jeune Garde, qui s'appellent n'importe comment, seront utiles le jour où la droite nationale sera au pouvoir pour les provocations, comme agent provocateur. C'est la raison pour laquelle il les épargne.
Mars et ses élections municipales. Des scrutins qui ont permis l'élection ou la réélection de maires au bilan catastrophique, parfois malgré des scandales d'une gravité extrême, comme à Paris. Mais ce qui a le plus marqué, ce sont ces images de maires chassés de leur mairie après la victoire de leurs opposants, comme on a pu le voir au Blanc-Ménil.
C'est sous des huées que Thierry Méguin quitte son poste de maire du Blanc-Ménil. Arrivé second avec 48,51% des suffrages, le candidat Les Républicains cède sa place à son rival de gauche, Demba Traoré, élu à plus de 51%. Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro, Thierry Méguin fulmine.
Aujourd'hui, le Blanc-Ménil est perdu. La ville va être divisée entre les racailles et ceux qui ont peur.
Face à une foule hostile, le maire sortant a été escorté vers la sortie par la police municipale. D'après lui, les sympathisants de son opposant auraient exercé des pressions et intimidations sur les électeurs lors du second tour. Il se montre alors pessimiste pour l'avenir.
Le vote communautaire et le clientélisme qui est à l'œuvre en Seine-Saint-Denis sont la preuve qu'on ne peut pas gentrifier le 93. Le département est foutu.
Avril, la commission d'enquête se termine. Charles Alloncle met fin aux auditions et prépare son rapport explosif pour réformer profondément le service public. Et en parlant d'explosif, le journaliste Paul Amar avait dévoilé comment Delphine Ernotte était parvenue à se faire nommer malgré sa nullité.
Journaliste libre, je n'ai pas fait partie du CSA, donc je vais dire des choses, ma chère Mémona. Madame Ernotte a été imposée à l'époque par le président de l'époque, François Hollande. La prestation de Madame Ernotte a été extrêmement médiocre, extrêmement. Elle ne connaissait rien au service public de l'audiovisuel. Un autre candidat a été remarquable, paix à son âme, Pascal Joseph, qui a été remarquable lors de son passage devant le CSA. Le vote lui était favorable, mais au dernier moment, une institution que je ne vais pas citer a tordu le bras d'un des membres du CSA pour l'obliger à changer de vote. Une plainte a été déposée ensuite, donc Mme Ernotte a été nommée. Une plainte a été déposée, une enquête a été faite. Les auditions des candidats étaient enregistrées, c'était des cassettes audio. Quand les policiers sont allés au CSA demander l'enregistrement de toutes les auditions, la cassette de Mme Ernotte avait disparu.
En mai, les conséquences de la guerre en Iran, déclenchée en février, commencent sérieusement à se faire sentir. Le détroit d'Ormuz fait dangereusement monter les prix, mais échauffe aussi les esprits sur les plateaux de télévision. Sergueï Girnov, encore lui, et le journaliste iranien Siavosh Ghazi se sont copieusement engueulés sur BFM.
Mais moi, je voudrais intervenir sur quelque chose, sur les déclarations qui sont faites à l'antenne, pour poser plusieurs questions. Quelles sont les sources des gens qui affirment qu'il y a 40% d'Iraniens qui sont au chômage? Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran a une dette de 200 milliards de dollars? Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran est au bord de l'effondrement, que la population iranienne va se soulever contre le pouvoir? C'est totalement des affirmations inacceptables que moi je trouve inacceptables. Moi, je vis ici à Téhéran et je vois la situation en Iran. Et quand j'entends des soi-disant experts affirmer ce genre de mensonges, cela me met véritablement en colère.
Siavosh Ghazi, vous restez avec nous. Je vais donner la parole à Sergueï Girnov, ancien officier du KGB. Justement, quelles sont vos sources, quelles sont vos informations, Siavosh, qui vous permettent de dire effectivement que l'économie est en train d'être asphyxiée par le blocus de Donald Trump?
Il suffit de regarder les données statistiques qui sont publiées. Hein. Vous prenez les cours de réal, c'est quelque chose qui est accessible. Moi, je ne les invente pas. Hein. Vous allez sur les sources officielles.
Voilà, et nous voilà donc en juin 2026. Et Dieu seul sait, les sujets n'ont pas manqué ces dernières semaines. J'aurais pu en choisir des dizaines, mais celui qui nous monte tous à la tête en ce moment, c'est évidemment la canicule. Non seulement elle est insupportable, mais en plus, elle n'en finit plus. Et ce qui est encore plus agaçant, c'est de voir ces mêmes écologistes qui passent leur temps à dénoncer la climatisation, reconnaître aujourd'hui que tous les plans alternatifs qu'ils nous rabâchent depuis des années ne suffisent pas. Marine Tondelier l'a d'ailleurs admis à demi-mot sur LCI.
À titre personnel, vous utilisez la clim dans votre bureau ou dans votre voiture?
Alors, je peux vous dire que non, que chez moi, c'est pas climatisé. Qu'en plus, je fais partie des gens qui ont isolé leurs combles et qui sont dans des combles qui, en fait, sont pas vivables quand même. Donc, qui est descendu. Je dors pas dans ma chambre en ce moment. Et au siège des Verts, c'est pas tenable. Et pourtant, on a fait les travaux récemment. Et voilà, on voit bien que quand on est sous les toits avec des Velux, en fait, c'est compliqué. Donc, j'ai vu la technique du blanc de Meudon. Oui. Mais j'ai un Velux très, très haut. Donc, je vais pas, enceinte de 6 mois, monter sur une échelle. Donc, on fait les draps mouillés sur les ventilateurs, enfin comme tout le monde.
Blanc de Meudon, on rappelle, c'est une poudre blanche, on dilue, puis on la colle sur les fenêtres.
Et alors, il paraît que ça évite, voilà.
Il y a pénurie dans les magasins, tellement les gens se jettent bien dans les magasins.
Encore une grande preuve d'anticipation du gouvernement.
Voilà pour ce petit état des lieux, et rendez-vous dans 2 mois pour une nouvelle saison qui, avec la présidentielle, s'annonce intense, mais passionnante. Voilà, Alexandre.
Bravo, Louis, belle année, je suis admiratif, merci.
C'était très chargé cette saison, faut bien le dire.
Non, mais merci de votre excellent travail, Louis Rigaudière, on ne s'en lasse pas, et je pense que nos éditeurs ont très hâte de vous retrouver.
Ah bah écoutez, moi aussi. Merci Alexandre.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, eh bien, nous retrouvons aujourd'hui Xavier Aymon, écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre et rédacteur en chef de la revue Élément. Xavier Aymon, vous vouliez nous parler de la fête de la musique aujourd'hui, donc celle qui s'est déroulée dimanche soir.
Exactement. Je voulais en effet revenir sur la fête de la musique qui a eu lieu donc le week-end dernier, car contrairement à beaucoup de gens de droite, je ne suis pas allergique par principe à cet événement, pour la seule raison qu'il a été inventé et promu par la vieille gargouille mitterrandienne Jacques Lang. Pour tout dire, je trouve même l'idée plutôt sympathique. Bon, il est vrai que ce lundi, en remontant le boulevard Beaumarchais jonché de cadavres de bouteilles, de verres en plastique et d'autres tombereaux de détritus divers et variés, j'ai pu rapidement me dire que, décidément, cette jeunesse ne savait plus s'amuser sans tout dégueulasser, et que, elle prétendument si soucieuse et respectueuse de l'environnement, ne l'était pas beaucoup de celui des riverains, ni d'ailleurs du travail des équipes de prolo du nettoyage qui allaient devoir passer derrière elle. Mais bon, allons, passons, soyons indulgents, il faut bien que jeunesse se passe, et il est possible que l'extrême chaleur ambiante ait pu troubler temporairement la grande conscience citoyenne et écologique des festoyeurs. Alors j'ai pas pu pour ma part le constater de visu, car si j'apprécie l'idée de la fête de la musique, je ne pousse pas cette passion jusqu'à y participer. Ma dernière expérience de celle-ci, qui remonte déjà à quelques années, s'étant soldée par plusieurs heures passées enfermées dans un bar de Bastille, dont le patron avait dû baisser le rideau de fer afin de protéger ses clients des affrontements entre bandes ethniques qui se déroulaient sur la place. Ce soir-là, la musique n'adoucissait pas les mœurs d'importation. Depuis lors, si je reste croyant dans le principe de la fête de la musique, je ne suis plus pratiquant. Et si je coche la journée du 21 juin sur mon agenda, c'est désormais pour me souvenir de ne surtout pas sortir ce soir-là. Mais cette politique du repli, de la retraite et de l'abstention, je ne l'applique pas uniquement à la fête de la musique, mais elle est étendue, au fil des années, à l'ensemble des événements collectifs à vocation originellement festive et qui sont devenus, par la grâce des politiques migratoires incontrôlées, de l'effondrement éducatif et du laxisme sécuritaire, d'inévitables coupes-gorges propices à tous les débordements. Car le problème, bien évidemment, il n'est pas dans le concept de la fête de la musique, mais dans l'ensauvagement du quotidien, dans l'acculturation grandissante d'une société de plus en plus atomisée et communautarisée, où tout événement collectif, de la célébration sportive au réveillon, en passant par le bal des pompiers, tourne désormais immanquablement à la violence, aux dégradations et à l'émeute. Et c'est alors que je repense avec nostalgie aux fêtes de la musique de ma jeunesse lointaine, hélas, dans une ville moyenne de province. J'aimais alors parcourir les rues au rythme des reprises assez hésitantes parfois de Nirvana, des interprétations parfois chevrotantes mais motivées. J'aimais voir ces gamins pour qui ce jour était la seule scène de l'année, voire de leur vie, et découvrir même, parfois, des petits talents, humbles, imparfaits et touchants, au hasard d'une voix, d'une mélodie, d'une chanson. J'aimais passer d'une chorale religieuse à 3 simili-punks reprenant du Noir Désir, avant que ce groupe ne devienne problématique, comme on dit aujourd'hui. J'aimais ce brouhaha, ces terrasses qui applaudissaient et qui chantaient, ce mélange des individus, des genres et des classes, qui est l'antithèse de leur vivre ensemble, qui n'est possible d'ailleurs justement que sans leur vivre ensemble. J'aimais cette vie populaire, collective, paisible et joyeuse, qu'on nous a volée. Dans n'importe quel pays normalement et raisonnablement homogène et sécuritaire, la fête de la musique serait une bonne idée. Plus dans le nôtre, hélas. Car il ne peut plus y avoir d'événements populaires quand il n'y a plus de peuple.
Merci beaucoup Xavier Aimant pour cette édito quelque part. Alors moi je voudrais répondre à cette remarque en disant que pour le coup j'ai été moi-même ce dimanche soir dans une ville moyenne de province où tout se passait remarquablement bien. Je crois qu'il y a eu à peu près aucun heurt et sans doute qu'effectivement il y a eu les détritus que vous décrivez, mais peut-être qu'il y a encore aujourd'hui des restes encore de ce peuple qui traîne quelque part dans certaines jolies villes de France.
Je l'espère, en effet, c'est ce que je décris est plutôt l'apanage des centres-villes, des grandes métropoles et des grandes agglomérations, même si on voit bien que le phénomène dépasse très largement ça, puisque maintenant, même les balles de village tournent parfois aux affrontements sanglants. On l'a malheureusement vécu assez récemment. Donc ça touche quand même des portions de plus en plus importantes du pays. Mmh. Et évidemment, on ne peut que le regretter, même si je ne doute pas qu'il y ait encore des îlots où on puisse en effet sortir un soir sans avoir la peur au ventre et devoir rentrer avant 22h et avant que les gens... commence à se taper dessus ou à agresser les uns les autres.
Oui, parce que effectivement, quelque part, faut pas avoir un tableau trop noir de cela. Et effectivement, même si on comprend ce que vous voulez dire, mais quelque chose qui m'a intéressé, c'est que selon vous, en fait, on a l'impression que c'est ce que disait Jordan Bardella l'autre jour d'ailleurs, mais c'est que on peut plus organiser un événement. Même on pense évidemment à la finale de la Ligue des Champions, on pense évidemment à d'autres événements dans ce style, sans que nécessairement derrière, on doive se retrouver avec des conséquences de réparation, de nettoyage, envoyer les détritus jetés dans le canal Saint-Martin, par exemple, justement après la fête de la musique. Finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, n'importe quel événement, populaire ou pas d'ailleurs, dégénère nécessairement.
C'est le drame. C'est le drame, c'est qu'en effet, on a tué peu à peu la possibilité de fêtes collectives publiques. C'est-à-dire que maintenant, les gens se retrouvent entre eux dans des endroits sélectionnés, se reçoivent les uns chez les autres. Mais en effet, des choses gratuites, accessibles à tous, où les gens se mélangeaient justement jusqu'à des années assez relativement récentes, même si c'est quand même un phénomène qui dure depuis un bout de temps, et ben c'est devenu en effet impossible. Ou alors ça demande des déploiements de police, de forces de l'ordre totalement délirants qui gâchent elles aussi l'esprit de la fête et l'esprit communautaire qui pourrait y avoir.
Mais quelque part, finalement, cette capacité à vivre ensemble au sens strict du terme, en fait, commence à devenir impossible à partir du moment où finalement il y a des éléments dérangeants, violents, agressifs, quelque part, qui eux imposent une certaine violence, une certaine manière de vivre à d'autres qui eux pour le coup ont pour objectif de s'amuser justement, de profiter de telle victoire, de telle fête, etc. Enfin, on a l'impression que c'est comme s'il y avait une forme de minorité qui imposait sa violence à tout le reste de la population dans ce genre de circonstances.
Oui, certainement. Alors après, c'est une minorité qui peut être très conséquente. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images justement des... des festivités post justement victoire du Paris Saint-Germain numériquement et on voit bien qu'il y a un effet d'entraînement aussi, c'est-à-dire qu'il y a en effet certains qui viennent uniquement pour ça, d'autres qui étaient peut-être là en effet pour faire la fête, mais voyant ce qui se passe, il y a cet effet de suivisme, cet effet de mimétisme qui fait que tout le monde se met à sauter à pieds joints sur les voitures, à casser, parce que ça entraîne en fait un effet délétère pour l'ensemble des gens. Et les gens qui venaient pour véritablement faire la fête, ils sont vite rentrés chez eux quand même.
Mais c'est quelque chose, oui, parce qu'effectivement, moi, par exemple, le jour de la victoire du PSG, je suis sorti simplement de mon quartier pour voir un petit peu comment ça se passait. Globalement, c'était bon enfant. C'est-à-dire que ça tirait un petit peu en l'air des feux d'artifice.
Ça dépend dans quel quartier vous
habitez. Oui, voilà, mais moi, j'étais pas dans un quartier particulièrement cossu, mais un quartier où je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément les mêmes problèmes qu'ailleurs. Mais En fait, j'arrive moi-même pas tout à fait à comprendre comment on... En fait, quel est le lien dans le cerveau de ces gens pour qu'une fête de la musique, pour que une victoire de, à un événement sportif, etc., débloque chez certaines personnes la nécessité de, d'aller casser une voiture, d'aller jeter des cocktails Molotov, non, c'est, d'aller c'est affronter la police.
C'est l'occasion, c'est-à-dire qu'en fait, la nature... de l'événement n'a strictement aucune importance pour ces gens-là.
Oui, mais...
c'est juste une occasion de razzia. C'est pas, c'est,
mais pourquoi aller faire une razzia quelque part ? C'est... En fait, moi, par exemple, mais même si on m'en donne la possibilité, je vais pas aller casser une voiture, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ?
Écoutez, il faudrait les interroger. Mais d'ailleurs, ça a été fait. Certains vous disent parce qu'on a la haine. Parce que c'est l'occasion de déverser notre haine de ce pays, de haine des forces de l'ordre, de haine des représentants de l'État. Et parce qu'on est en guerre, finalement, permanente, guerre de basse intensité ou de notre intensité moyenne, contre ce pays, et que c'est l'occasion de semer la terreur, de faire peur aux gens, de montrer qu'on est fort, entre guillemets, fort de notre faiblesse surtout, mais fort. Et en effet, je pense que ça peut être dans n'importe quel événement. Quand on vous dit que les incidents qu'il y a eu après la victoire du PSG sont liés au hooliganisme ou au football, c'est totalement absurde. C'est pas du tout les mêmes phénomènes. C'est pas du tout le même rapport. Je ne nie pas qu'il peut y avoir des problèmes avec le hooliganisme.
On a vu d'ailleurs, juste avant la Coupe de France, il y avait des supporters de l'OGC Nice qui, eux, étaient des hooligans, pour le coup. Qui eux pour le coup étaient des Niçois, sont mis à faire des bagarres, je crois, dans certains quartiers, etc.
Ils avaient rendez-vous avec des supporters de l'équipe adverse qui sont allés attaquer dans un bar. Ça, c'est des problèmes de hooliganisme là. Mais quand vous avez toutes les banlieues qui se déversent sur Paris pour casser, c'est pas du hooliganisme. D'ailleurs, on voit bien, ces gens sont pas des fans de football.
Bah, sans doute que si.
En partie, mais je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il y a quelqu'un qui se met à hurler dans une rue d'une cité « but, but », alors qu'il n'y a pas but. Et que là, tout le monde commence à sortir, à tirer des... Alors, ça veut dire qu'ils n'étaient même pas en train de regarder le match.
Ouais, mais en fait, ça qui est fascinant, c'est que...
Pour des fans de football, c'est un peu curieux.
Dans les gens, justement, dans une partie de ces gens des banlieues, on a l'impression que parfois, il y a une sorte de volonté de sortir, une sorte de violence, de mouvement physique, à expulser, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de catharsis pour eux, ces événements. Enfin, c'est ça qui est assez étonnant. Mais moi, pour le coup, ça me viendrait pas l'idée justement d'aller exploser des voitures, même si
s'y présentait. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est qu'on a affaire à des populations qui n'ont pas les mêmes codes culturels, qui n'ont pas le même rapport à l'autorité, qui n'ont pas le même rapport à la fête. C'est-à-dire que en effet, on pourrait dire on a fait des fêtes pendant des siècles sans qu'il y ait ce genre de débordement. Qu'est-ce qui a changé ? Tout le monde le voit à peu près.
Oui, mais je suis même pas sûr. Enfin, encore une fois, déjà, ces personnes qui sont pour une part d'origine immigrée dans leur pays d'origine, eux, je suis pas sûr qu'ils aillent défoncer les voitures, cramer des bus et autres.
Ah,
et
oui, sans parler, c'est pas un déterminisme naturel.
Oui, voilà ce que j'allais dire.
C'est le fait d'être dans un contexte particulier, un contexte.
C'est de la culture de banlieue,
culture de banlieue, sous-culture de banlieue, ressentiment contre le pays d'accueil, sentiment d'être exclu. On leur répète quand même depuis quasiment leur berceau qu'ils sont les victimes de la France, que s'ils réussissent pas socialement, c'est la faute du racisme, de la discrimination, etc. Tout ça, ça finit par générer évidemment un ressentiment qui aboutit à la violence et à la détestation du reste de ces ce qui est censé être ses compatriotes, quand même. On voit bien que il y a un ressentiment qui est extrêmement marqué et qui n'est pas le fait du hasard.
Ouais, donc selon vous, c'est une forme de haine envers nous qui se manifeste.
Je pense que non seulement, c'est pas une question de le penser, c'est une question de le constater. C'est une question de le constater. Vous voyez qui sont les cibles de leur violence, qui sont les choses qu'ils revendiquent, les drapeaux qu'ils agitent, etc. Il y a évidemment une volonté conflictuelle vis-à-vis de leur vision de la France qui est vue comme un pays qui les exploite, qui les humilie, qui a pillé, soi-disant, et détruit leur grande civilisation afro-maghrébine. Et donc, évidemment, ils veulent nous le faire payer. Enfin, je pense que c'est un simple constat. Après, on peut essayer de trouver des solutions, discuter de la réalité de ce ressentiment et de son origine. Mais sur le constat, je veux dire, on peut, à mon avis, à moins d'être sourd et aveugle, on ne peut pas faire autrement que de faire ce constat-là.
Et est-ce que on n'a pas une tendance aussi... Alors, pour le coup, je sais que je me fais un peu l'avocat du diable, mais une tendance aussi à ne voir effectivement que ce qui est cassé et que ce qui est détruit, alors que dans l'ensemble, sans doute que... alors, peut-être pas pour la Ligue des Champions non plus, mais par exemple pour la fête de la musique, dans l'ensemble... J'ai l'impression que tout s'est plutôt bien passé, que c'était plutôt bon enfant, plutôt... Enfin, quelque part, j'exagère, mais il n'y a pas eu de mort. Enfin, c'est-à-dire que ce n'était pas une situation cataclysmique et je ne suis pas certain que les gens avaient peur de sortir dans les rues de Paris ou d'autres villes de France le soir de la fête de la musique.
Alors, je pense que vous avez en partie raison. C'est-à-dire qu'évidemment, dans un système médiatique dans lequel nous sommes, on a tendance à focaliser sur les incidents et sur les violences qui sont perpétrés pendant ces événements. Après, je trouve quand même qu'on a un degré de tolérance qui est peut-être devenu très important. C'est-à-dire qu'en effet, tant qu'il n'y a pas de mort, on estime que ça s'est bien passé. C'est un peu comme notre ministre de l'Intérieur qui nous explique que le réveillon s'est vraiment passé de façon extrêmement paisible parce qu'il n'y a eu que 650 voitures brûlées. 5 pompiers blessés, etc. On a quand même des critères qui ont
mais ça, c'est vrai qu'on a d'année en année. Quoi. On a une accoutumance complète à ce genre d'événement. J'en veux pour preuve quelque chose qui, moi, m'a légèrement choqué, même si le terme est un peu fort, c'est quand j'étais cet hiver au marché de Noël de Strasbourg, où la présence policière était impressionnante, on doit se faire fouiller à l'entrée, et à côté de ça, où il y a des blocs de béton sur certaines rues pour empêcher les voitures béliers de...
Les voitures folles qui sont conduites par personne.
Ah oui, exactement, voilà, une voiture folle.
C'est très classique, mais on ne peut que le répéter, c'est-à-dire la suppression, la disparition des frontières extérieures crée une multiplication des frontières internes. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre des barrières partout, des dizaines de digicodes pour arriver dans un bureau ou dans une résidence. On multiplie ce qu'on laisse rentrer tout et n'importe quoi, si je puis dire, et après on gère ça à l'intérieur par un délire sécuritaire, on met de la vidéosurveillance partout, etc. C'est ça le projet. Quoi.
Et j'aurais tendance à penser que, ne serait-ce que parce que les années passent, en fait on n'a pas forcément le souvenir de comment c'était avant. De la manière dont, en réalité, il faudrait que je demande quelque part à mes grands-parents et qu'on demande à nos aînés, mais sans doute que dans les années 60-70, la situation était différente, mais sans vouloir rêver cette époque-là, je me demande à quel point, effectivement, ça a changé et à quel point, justement, cette génération-là qui, justement, serait née dans les années de 40, par exemple, a vécu le changement étape par étape. Et sauf que, par exemple, Vigipirate a été une étape, mais il y a dû en avoir d'autres sur l'accoutumance à ce phénomène. Parce que, globalement, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une insécurité du quotidien global, diffuse, à laquelle, finalement, le coup de couteau reste un événement, mais le reste du temps, tous ces micro-événements sont devenus normaux.
Oui, c'est ça, c'est une atmosphère délétère, que ce soit dans les transports en commun. Personne n'est tranquille, personne n'est apaisé, tout le monde se surveille son sac, son téléphone. D'ailleurs, il y a des appels réguliers faisant état de pickpocket, de possibilités de vol. Il y a une ambiance à laquelle on s'est habitué qui n'est pas normale. Il suffit de voyager dans certains pays à l'étranger pour se rendre compte que c'est pas normal d'être en permanence, dans la crainte et dans le stress. Mais en effet, on finit par trouver ça normal et se dire, ah bah tiens, au moins j'ai pas pris un coup de couteau aujourd'hui, donc finalement c'est une bonne journée. Puis voilà, c'est vrai qu'il y a finalement, il n'y a pas tellement de délinquance parce que, en fait, j'ai pas été agressé. Oui. Par contre, j'ai dû subir un mec complètement illuminé qui hurlait dans le métro, un autre qui fumait un joint sur le quai, mais ça, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas d'agression physique. Mais c'est quand même que des choses qui sont totalement anormales dans un pays civilisé, de haute civilisation. Quoi. Mais c'est devenu banal, et donc finalement, on intègre ça, et notre degré d'exigence, entre guillemets, de sécurité, de vivre juste paisiblement, c'est devenu quasiment un luxe aujourd'hui de se dire,
c'est devenu un luxe,
je vais partir en vacances, et peut-être que je vais être tranquille pendant une semaine.
Mais même à la boule, football envoyé, qui est quand même villégiature plutôt cossue pour le coup.
Bah c'est bien que tout le monde se rende compte de la réalité, et même les gens, même les gens privilégiés, parce qu'en effet, jusqu'à présent, il y avait un moyen d'échapper à ça, c'était l'argent. Grâce à l'argent, on pouvait encore se créer une micro-sécurité personnelle, etc. Tout ça, c'est en train d'exploser. En effet, la Baule est un très bon exemple. Et les stations de ski, etc. Et maintenant, c'est plus possible, quasiment, à part peut-être pour les hyper, hyper riches, mais même pour les gens aisés qui avant pouvaient se protéger, la situation est en train de se détériorer.
Oui. Mais à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que même par exemple tous les jours en prenant les transports ou en me baladant dans la rue, je vais pas avoir je vais pas me sentir sur mes gardes, je vais pas nécessairement on va dire surveiller mon téléphone de peur qu'on le vole, etc. Mais en revanche, ça passe par énormément de petites habitudes que n'ont pas du tout effectivement les gens qui vivent dans des pays sans insécurité, sans immigration ou autre. C'est ça la principale différence. C'est
pouvoir laisser un téléphone sur une table.
Oui, ce qui semble inconcevable aujourd'hui.
Bistrot, c'est inconcevable en France. Dans plein de pays, vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà, c'est des détails. En effet, on pourrait dire, oui, c'est pas très grave, il suffit d'être prudent. Mais enfin, ça crée quand même une ambiance. Et si les Français sont aussi dépressifs, sont aussi bourrés de médicaments, etc., ne veulent plus faire d'enfants, c'est aussi à cause de ça. Parce que c'est pas naturel de vivre dans cet état d'inquiétude permanente.
Justement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je disais avec cette question du souvenir, mais j'ai l'impression qu'on ne sait même plus à quoi pourrait ressembler une société de confiance.
Ah ben, on l'a oublié. En tout cas, en effet, il faudrait poser la question à nos parents. Moi, je pense, enfin, donc à vos grands-parents. Mais en effet, on ne sait plus. Votre génération n'a jamais connu une société de confiance.
Ouais. Et puis même au-delà de ça, enfin, il y a sans doute quelques pays dans lesquels ça existe toujours, probablement qu'en Pologne ou en Hongrie, sans doute que on peut.
Le Japon, ça c'est certain. Mais il y a un certain nombre de pays, où heureusement il n'y a pas eu cet écroulement en effet de la conscience collective, d'une sorte de bienveillance empathique entre les gens qui vivent dans un même pays. Quoi.
Et tout est compensé évidemment par une gestion verticale du problème, dans le sens où on en réfère toujours directement. Bah, en fait, avec ces problèmes, il faut qu'il y ait plus de policiers, il faut qu'il y ait plus de vidéosurveillance. Oui. Et finalement,
c'est le cercle vicieux et c'est terrible parce que en effet, c'est ce qu'on dit, c'est sécuriser l'enfer. Quoi. Et évidemment que c'est pas une solution. Évidemment que personne ne souhaite vivre dans un état policier. Mais en effet, on n'arrive plus à penser autrement. Qu'en effet, par la sanction, par l'encadrement policier, parce que la société est tellement atomisée qu'on ne peut plus imaginer régler les problèmes entre nous par l'entraide, la bienveillance, par l'empathie, etc. C'est plus possible dans une société où plus personne ne reconnaît son voisin et où tout le monde se déteste.
Mais sans parler même de répondre par la bienveillance et l'empathie, on voit que quand on essaye de régler les tensions en fait, je vais donner un exemple, mais quelque chose que moi je m'astreins à faire maintenant, c'est que quand il y a quelqu'un qui met des vidéos, ça peut pas être stupide, hein, mais des vidéos fortes dans le métro ou qui va passer des appels en braillant, etc., c'est toujours demander à la personne de se taire, de descendre ou autre, de mettre fin à ça. Sauf que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a, je sais pas si c'est un effet de nombre, mais une forme d'apathie absolue qui fait que le type qui va être complètement fou dans le métro ou dans le bus, personne ne va le sortir. Le type qui va justement parler très fort, etc., personne ne va le sortir. Les types qui ennuient tout le monde, pareil, personne ne va les déranger.
Mais parce qu'en effet, il y a une forme d'apathie, il y a même une forme de lâcheté, on peut dire. Mais elle se justifie parce que les gens ont en effet peur des conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez demander à quelqu'un d'éteindre son téléphone ou de parler moins fort, il faut être prêt à aller à la confrontation physique. Or, les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens, en tout cas, normaux, entre guillemets, lambda. On ne baigne pas dans la violence depuis notre plus tendre enfance comme certaines populations. Donc, on n'a pas cette habitude-là. Et d'autant plus que, même si on était prêt à assumer la possibilité de la violence, on sait très bien qu'on risque soit même d'être condamné, d'être embêté, d'avoir des conséquences graves. On le voit quand il y a des gens qui essaient d'intervenir dans des bagarres, etc. Il y a quand même souvent
la charge de l'accusation.
En partie, certainement. Mais on peut pas l'oblitérer, on peut pas l'oublier, parce que il y a des cas de, il y a des cas avérés. Il suffit que la personne dise non, mais en fait il m'a insulté, il m'a fait des insultes racistes, etc. Et c'est vous qui vous retrouvez accusé. Alors peut-être qu'en effet c'est un peu une mauvaise excuse et que si les gens intervenaient plus, ça recrée une confiance. Mais honnêtement, je comprends aujourd'hui que les gens regardent un peu leurs pieds et on prend des coups de couteau pour des regards ou des cigarettes. Alors pour une remarque désobligeante, ça peut aussi...
Ça va être la Kalachnikov.
Ça, c'est aussi une réalité. Ouais. Peut-être qu'on extrapole et qu'on lui donne plus d'importance qu'elle n'a, mais on peut en tenir compte. Les gens se des coups de couteau pour des accrochages en voiture, etc. Bon,
je pense qu'on peut pas mener tous les combats non plus, et que si au quotidien on doit justement se mettre dans une situation potentiellement conflictuelle, effectivement, à la
ça
fin,
fait ça... beaucoup. Vous allez au travail ou vous revenez du travail, vous avez bossé 9h, 10h, vous êtes fatigué, vous allez dire ah, je vais encore devoir. Si ça se trouve, ça va partir en vrille, etc. Oui, non, je vais sortir du métro à une station plus tôt et puis je vais finir à pied, quoi. Ouais.
Merci beaucoup Xavier Aymant,
merci à vous pour
cette chronique pleine de bienveillance. voilà, exactement. Mais gardons espoir tout de même, malgré tout. On arrivera à la retrouver, cette société de confiance, un jour. On arrivera à retrouver tout ce qu'ils nous ont pris, comme on dit. Merci. Et donc, on ne vous retrouvera pas pour cette saison, Xavier Aymant. Je crois que c'était la dernière fois.
Écoutez, j'en suis attristé, mais j'espère à la rentrée. Alors.
Mais ce sera à la rentrée avec grand plaisir. Merci d'avoir
merci
été avec
à vous.
Nous.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Je trouve que nos instants promos sont de mieux en mieux ces derniers temps. Ils ont été particulièrement travaillés.
Oui, il faudrait qu'on remercie le producteur de ces merveilleux sonores.
Oui. Qui c'est?
C'est moi. C'est pour ça que je voulais qu'on le remercie.
J'avais compris. Merci. Alors tout de suite, on va passer évidemment à la chronique d'Éric Doutrebente, comme tous les mercredis. Éric Doutrebente, bonjour. Vous êtes fondateur de Tiepolo, financière, société de gestion de portefeuille indépendant gérant des clients privés. Et alors aujourd'hui, vous vouliez nous parler de la forêt française, sachant qu'en 7 ans et 24 ans, vous avez eu la joie de marquer des arbres et faire des plans de gestion avec votre oncle expert forestier en Touraine. Alors qu'en est-il ?
Alors un petit hommage à mon cher oncle Jean-Pierre Sadou, qui avait été un des premiers experts forestiers à organiser des ventes pour les propriétaires forestiers, des ventes qui sont groupées, donc des ventes aux enchères. Il avait aussi pas mal agi pour la filière forestière quand il a été expert forestier pendant très longtemps. Alors la forêt française, c'est 31 de la France est couverte par de la forêt. C'est la quatrième forêt en Europe, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. C'est à peu près 12,7 millions d'hectares, alors qu'il y a ça c'est pour le privé, alors qu'il y a 17 millions d'hectares en global, et il y a des régions de France qui sont comme la Nouvelle-Aquitaine ou la Corse où il y a 60% de forêt dans ces régions. On a une évolution donc des transactions de marché de la forêt depuis 2007 qui est pas mal augmentée, puisqu'aujourd'hui on a plus de 20 000 transactions en 2005. Évidemment, les plus petites transactions de 1 à 2 hectares sont les plus importantes en termes de nombre, mais il y a aussi des activités importantes sur des ventes plus importantes de forêts. L'évolution des surfaces s'est échangée sur le marché des forêts. On est passé de grosso modo, en 1975, 90 000 hectares échangés. Là, on est à 176 000 hectares échangés en 2025. Donc, c'est un plus haut historique, c'est-à-dire que la forêt française bouge en termes de propriétaires. Alors, qui achète les forêts ? Alors attention, ce sont principalement des personnes morales, mais dans les personnes morales, ça peut être des groupements forestiers ou des groupements forestiers agricoles. Donc attention à ces chiffres, mais ça représenterait plus de 50% du marché. Il y a aussi des personnes physiques qui n'ont pas de lien avec l'agriculture ou la forêt, donc c'est à peu près 21% du marché, et 8%, ce sont des personnes qui sont liées à l'agriculture. Autre chiffre, l'âge moyen des acquéreurs et des vendeurs, ben depuis 1985, n'a fait que monter, c'est-à-dire que les acquéreurs aujourd'hui sont de plus en plus vieux, c'est-à-dire qu'avant ils étaient à peu près à 45 ans, maintenant on est à plus de 5 ans. Pour les vendeurs, on a été à 60 ans, on est passé à 68 ans. C'est lié au vieillissement de la population et de l'accumulation de la richesse. Et donc aujourd'hui aussi pour les l'espérance de vie augmentée, puisque faut vous rappeler, on est passé de 75 ans d'espérance de vie à plus de 83 ans aujourd'hui. Alors les acquéreurs de la forêt, ils sont de plus en plus éloignés de leur des biens forestiers. Avant, vous aviez une proximité entre l'acquéreur de forêt qui habitait à tel endroit et qui achetait de la forêt. Là, ça se creuse. On était à peu près à 15% de gens qui achetaient de la forêt avant et qu'ils étaient dans la région. Là, on a plutôt une grosse partie qui vient de personnes extérieures à la forêt, donc une évolution. Alors, des prix sont toujours tirés vers le haut pour les grands massifs. Je donnerai un chiffre incroyable. Il y a eu 2500 hectares vendus il y a quelques temps à une compagnie d'assurance. Alors là, pour des histoires de décarbonisation, ça c'est un des sujets sur la forêt, c'est que les gens achètent de la forêt pour des aspects de décarbonisation. Je parle des grandes sociétés. Donc il y a un engouement sur les forêts d'un seul tenant. Et le prix a plutôt... Donc là, on était au-dessus de 45 000 euros. C'est totalement atypique. La moyenne, c'est 5 000 euros. Mais attention, il y a d'énormes disparités suivant les régions, suivant le peuplement de la forêt. Et on l'a vu depuis plusieurs années, il y a une évolution assez forte des prix. Évidemment, le prix du bois lui aussi monté, donc ça favorise les opérations sur la forêt.
Et est-ce que c'est intéressant justement d'acheter de la forêt comme placement financier ?
Alors, c'est toujours une diversification, il ne faut jamais le faire soi-même, il faut toujours se faire conseiller. Après, il faut acheter des parts de forêt qui soient de qualité, donc ça demande du conseil. Il y a deux aspects, il y a sur la partie de l'impôt sur le revenu, vous avez une déduction de 25% quand vous investissez 12 500 euros, donc il y a des gens qui achètent des petites parts de forêt, ça c'est le premier point, et d'autres aspects sur l'IR. Et puis sur l'IFI, il y a une exonération de votre IFI à hauteur de 75%, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 100 000 euros de forêt, eh bien dans la valeur que vous avez déclarée à l'IFI, c'est simplement 25 000. Et troisième point, c'est un aspect lié au droit de succession, c'est toujours très intéressant pour par exemple des gens qui n'ont pas d'enfants, de pouvoir transférer une partie de leur patrimoine via des parts de groupements forestiers ou de forêts que vous exploitez vous-même, vous faites exploiter surtout par un expert forestier compétent, comme l'était mon cher oncle Jean-Pierre Sadou.
Voilà, merci à vous, merci à votre oncle, et merci à vous pour cette dernière chronique donc de la saison. Éric Doutrebente, on vous retrouvera en septembre, et n'hésitez pas à solliciter Tiepolo pour votre gestion privée et financière. Merci.
Merci et bon été.
Ligne droite, la revue de presse.
Et Gilles a refusé de venir.
Oui, il est en direct de sa baignoire, nous dit-il.
Voilà, exactement, parce qu'il fait trop chaud, donc du coup c'est fatigant de sortir. Ok, ok, on a compris, bah voilà. Gilles.
Alors, la France... Je suis de tout cœur avec vous.
Oui, oui, on vous croit. Alors, la France a atteint hier des sommets de chaleur jamais atteints, et l'on reparle du dernier tabou, la climatisation.
Oui, dans les pages opinion du Figaro, Bertil Bayard titre sa chronique « Climatisation, histoire d'un lavage de cerveau ». On veut bien la croire quand elle écrit ceci. « Ce mardi, on avait plus chaud en France que sur 98,8% de la planète, mais c'est en France que le taux d'équipement en climatisation est parmi les plus bas, avec 25% des foyers concernés contre plus de 50% en Italie et en Espagne, ou 90% aux États-Unis, au Japon ou même en Corée du Sud. Pire, la climatisation reste l'exception dans les services d'urgence, vous avez bien entendu, des hôpitaux ou encore à l'école, 7% des établissements d'enseignement. Et elle ajoute dans son rapport sur la réglementation environnementale, rendu en juillet 2025 à la ministre du Logement, Valérie Létard, Robin Rivaton a mis les pieds dans le plat. Il est temps de briser un tabou. La RE 2020 a été construite pour limiter la production de froid, familièrement appelée la climatisation, et ce pour des raisons sans rapport avec la question des émissions de gaz à effet de serre, l'installation d'un système de refroidissement actif dans les logements neufs est rendue pratiquement irréalisable. Alors on se pince. Cependant, l'État vient de signer une convention de programme financée par des certificats d'économie d'énergie pour faire
émerger des solutions passives ou des équipements de rafraîchissement efficaces, je cite, sans recours ou presque à la climatisation. En fait, en réalité, conclut la chroniqueuse, le système s'est organisé pour ne pas climatiser, il s'accommode ce tartuffe de l'hypocrisie. Tout le monde, du particulier au directeur d'école ou d'hôpital, achète sa clim monobloc, pour le coup énergivore. Voilà, c'est à lire dans Le Figaro.
De son côté, Valeurs Actuelles fait sa une sur le narcotrafic avec ce titre choc, les dealers à l'assaut des mairies.
Oui, une enquête sur une dérive qui menace nos collectivités, à Seine hebdomadaire qui sort aujourd'hui. Et vous lirez ce passionnant dossier qui plonge au cœur des mairies, comme à Saint-Denis où se déroule, je cite, le jeu trouve de Bailly Bagayoko, puis le coup de gueule des maires qui semblent démunis face à ce fléau et qui réclament pour la plupart une brigade spécialisée de terrain en guise de police de proximité. Et bien sûr, cette question qui revient, comment votent les quartiers gangrénés par les narcos ? Qu'il s'agisse de Marseille, de Dijon, de Nice ou de gros points de deal encerclent la baie des Anges, comme l'Ariane et les Moulins où Éric Ciotti, à la dernière élection, n'a récolté que 23 et 27%, alors que Christian Estrosi a lui engrangé 50% des voix. Nicolas Boutin dresse une radiographie des autres villes atteintes, comme Nantes, Nîmes, Toulouse, Grenoble, Roubaix ou La Courneuve, où bien sûr le nouveau maire LFI n'a été élu qu'avec 243 voix d'avance.
Le magazine Le Point de Vue revient sur le Royal Asco qui s'est tenu du 16 au 20 juin et qui ouvre la saison estivale au Royaume-Uni.
Oui, alors, ça s'appelle le Royal Ascot. Hein. Savez-vous d'ailleurs où se trouve Ascot, cher Alexandre ? C'est dans le Berkshire. Donc c'est à 40 km à l'ouest de Londres, c'est un véritable événement. C'est l'équivalent du prix de Diane Hermès en France, en plus chic encore. Et celle qui remporte tous les suffrages est sans nul doute, la princesse de Galles, chaleureusement applaudie par le public lors de la procession royale. Mais je vous parle de cet événement car pour la deuxième année consécutive, l'hippodrome d'Ascot a fait appel à un chef français, à Yannick Aléo, pour reconstituer l'élégant bar Antoine qui est installé dans son restaurant londonien Pavillon, grand succès. Et qu'en Point de Vue lui a demandé quelle est la recette de son succès justement, le chef triplement étoilé a répondu à la veille du Grand Prix, l'esprit français certainement. Aujourd'hui, nous avons le double de couverts et nous sommes complets. Nous sommes arrivés avec des bouchées franco-japonaises et nous revenons à un hommage à notre gastronomie, une cuisine forte car elle a toujours su s'enrichir. Et on apprend ainsi que Yannick Aléno est allé chez un tailleur britannique pour avoir la tenue idéale.
Et puis c'est le moment de porter des sandales.
Oui, j'ai pensé à vous, mon cher Alexandre. Alors, on l'appelle la spartiate, la tropézienne, qu'importe la forme, pourvu qu'il y ait l'aération, écrit Hélène Claudel dans le magazine Monsieur, sans parler des prix qui vont du simple au double en fonction des marques. Alors, on apprend ainsi, dans cet article, qu'un certain Edward Carpenter, poète britannique à la fin du 19e siècle, militant pour les droits homosexuels, était aussi un fervent défenseur de la sandale.
Ça m'étonne pas.
Pour lui libérer les pieds, était un acte politique qui s'opposait aux normes rigoristes victoriennes. Alors, il les aime tellement qu'il apprend à les fabriquer lui-même, s'inspirant des sandales indiennes. Mais à vrai dire, la sandale la plus ancienne est la plus ancienne des chaussures, puisque dans l'Antiquité, égyptien, grec et romain, la chose. Le mot vient du latin sandalium, lui-même issu du grec sandalon, qui désigne une chaussure légèrement ouverte. Alors souvenez-vous, Alexandre, Hermès, le messager des dieux de l'Olympe, est toujours représenté avec des sandales ailées. Aujourd'hui, c'est la marque Birkenstock, propriété de LVMH, qui en produit avec des semelles en liège, un incontournable de l'été. Les plus branchés les portent même en hiver avec des chaussettes, ce qui n'est pas forcément du meilleur goût. Mais d'après la journaliste de Monsieur, celle qui est à la mode cet été s'appelle Fisherman, sandale du pêcheur créée par la marque Paraboot, copiée sur celle des années 1950, fermée sur le devant à structure en cage permettant de protéger les orteils tout en laissant l'eau s'évacuer. Voilà, à portée de préférence avec un pantalon en lin et une chemise légère. Sa seule faiblesse, c'est son prix, 350 euros.
Ah oui, quand même.
Bon. La chaussure ou les deux, quand même.
Oui, voilà. Mais
c'est la paire, oui.
Merci beaucoup, Gilles. Et écoutez, on vous retrouve demain pour la prochaine.
À demain, mon cher Alexandre.
Zone libre.
Et pour cette zone libre, je retrouve donc Maëlys Clauzel et Magda Dautefeuille. Alors, Vous nous avez préparé de grands sujets. Je crois que vous avez travaillé là. Je vous ai vu travailler pendant une heure ou deux là, justement.
Oui, au moins. Juste de l'autre côté du studio.
3 heures. Et 3 heures pour quel résultat, Maëlys ?
Eh bien, écoutez, puisque vous portez une lunette de soleil, ça m'offre une parfaite transition pour vous parler des vacances d'été qui approchent à grands pas. For sure, exactement. Et figurez-vous que cette année, chers auditeurs, eh bien, les Français privilégient davantage leur destination, plutôt dans le sud-ouest ou dans le nord, parce que finalement, ces Français sont terrorisés par la canicule et ces chaleurs qui sont absolument insupportables. Donc, ils recherchent en particulier, justement, les températures un petit peu plus douces et avec des prix, évidemment, plus attractifs, puisqu'on le sait, dans le sud, notamment dans le sud-est, c'est assez cher. Comment ?
Alors qu'à Douai ?
Oui, voilà. Oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus attractif. Mais bon.
Ou à Saint-Quentin, où est-ce que vous iriez en vacances dans le nord
Dans le nord, peut-être à Deauville, quoi. Mais,
C'est pas ce qu'il y a de plus au nord, hein, quand même.
Vraiment,
et puis, j'aime beaucoup la Normandie.
Oui, les Hautes-Normandies.
J'aime beaucoup cette région.
Non, vous irez au Havre, c'est décidé.
Ah oui, non, la ville d'Édouard Philippe, très peu pour moi.
Et vous, Magda?
Moi, j'ai travaillé 3 heures aussi pour trouver une solution pour votre sommeil, Alexandre.
C'est vrai, alors parce que oui, effectivement, pour donner un peu de
contexte. Alors, le sommeil, ça va.
Non, mais au contraire, justement.
Oui, du coup, ça va, mais non.
Je dors 1h30 par nuit ces temps-ci, donc j'ai eu 1 heure de rap cette nuit. Oui, voilà, je suis à 2h30 cette nuit, mais bon, bref, peu importe. Ça n'a pas existé. Poursuivez.
Bah, exactement. J'ai une solution parce que apparemment, vous dormez dans une fournaise, par exemple. Non, vous dormez dans une fournaise et il s'avère que tous les matins, je passe devant des parcs parisiens. Et il s'avère qu'il y a des groupes de copains qui dorment à Belle dans les parcs parisiens. Donc voilà, c'est un petit conseil, une petite astuce.
J'aille avec mes copains dormir dans les parcs parisiens.
Par exemple, on habite à côté quand même de Boulogne.
Le conseil désastreux.
Il y a d'autres parties.
Le conseil désastreux de Feuille. Allez dormir dans le bois de Boulogne si vous avez trop chaud. Ah oui, d'accord.
Sur le champ de Mars, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens.
Sur le champ de Mars, il y a des choses comme ça. Il y a plein de gens qui dorment à Belle. Donc si jamais vous vivez dans une fournaise, n'hésitez pas.
Eh bien, écoutez, je crois que j'ai un tout petit parc à côté de chez moi, dans la mairie du 14e arrondissement. Donc, peut-être que.
Vous voulez pas donner votre adresse, Alexandre?
J'ai déjà donné mon adresse mail à cette antenne, on va éviter de faire plus.
Oui,
mais. Non, sinon après, je vais être harcelé par les fans, c'est toujours la même chose.
Oui.
Mais où je voulais en venir. Oui, est-ce que. Alors, Magda, j'ai besoin de votre avis d'expert là-dessus. Est-ce que ça n'avait pas un peu clochard, comme on dit?
C'est très hautain de votre part, déjà, je trouve pas du tout.
Vous avez dormi dans un parc avec votre copain hier soir.
Bah exactement. Comment vous savez?
Vous en pensez quoi? Vous pensez pas que ça fait un petit peu...
J'avais de ma vie, je dormirais dans un parc à Paris. Ouais. Mais bon, après...
Je dormirais dans la rue. Et ben, on verra quand vous serez licencié de Radio Courtoisie.
Ouais, ça, exactement.
Et vous en pensez quoi, Maïs?
Bah écoutez, peut-être pas à Paris, puisqu'on le sait, à Paris c'est quand même un petit peu risqué, surtout quand on est une femme d'être la nuit finalement en train de vagabonder dans Paris, encore plus en train de dormir, enfin si vous voyez ce que je veux dire.
Y aller avec des copines, quoi.
Bien sûr, au moins. Non, mais par ailleurs, dans le sud, là où c'est un petit peu plus sécurisé, ou par exemple dans un jardin privé, moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Voilà, un petit saut dans la piscine, puis après, une petite nuit sur le transat et tout là pour le mieux.
Dans un espace public.
C'est très sympa. Non, chez moi, dans mon jardin.
D'accord,
dans
oui, d'accord. Super, merci. Vous en apportez de la réflexion.
Vous avez dormi dans le jardin, quoi.
Oui, voilà. Avec les chiens à côté, c'était parfait.
Et vous, Franck, est-ce que vous allez dormir dans les rues?
Non, dans les rues, pas trop. Non, moi, je suis assez lit, chambre, oreiller, vous voyez, couette. Voilà, je suis un peu marginal ici. J'ai l'impression.
Ok, étrange. Écoutez, merci. C'est la fin de cette zone libre et c'est la fin du direct sur YouTube et sur X, chers éditeurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour cette matinale où on a pas mal parlé de l'écosystème un petit peu de la droite et de la gauche aussi. Suivez toutes nos enquêtes qui sont en train de sortir ces jours-ci sur divers médias, sur Logim, sur Valeurs Actuelles et autres. On vous invite à tout suivre et on vous invite également à nous faire des dons.
Donner à Radio Courtoisie pour que l'aventure continue, soutenir.rc.fr. Vous êtes beau avec vos lunettes, hein. Ça vaut le coup de s'abonner à YouTube pour voir ça. Soutenir.rc.fr pour soutenir Radio Courtoisie et soutenir Alexandre qui en a bien besoin.
Oui. Merci beaucoup. Tout de suite, on écoute justement Mathias Renaud qui nous parle des subventions de l'Institut La Boétie.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce Debout les Français, chers auditeurs, que j'aurai le plaisir d'animer en attendant notre cher Alexandre, nous recevons Mathias Renaud.
Bonjour.
Bonjour à vous, monsieur. Alors, je rappelle que vous êtes député RN dans la Somme. Et aujourd'hui, si vous êtes avec nous, c'est pour parler justement de ces subventions et notamment de l'Institut Laboétie, donc on va dire le cercle de pensée, l'école de formation de nos chers insoumis. Et justement, après une enquête conjointe réalisée par Radio Courtoisie, L'Incorrect et Boulevard Voltaire et même Logim, donc Magda Dodefeuille vient juste de vous en parler, chers auditeurs, vous avez annoncé sur votre compte X avoir saisi le ministre des Comptes Publics au sujet de cet institut. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer pourquoi ?
Je crois que vous avez quasiment tout résumé dans votre chronique. Donc, l'Institut Laboétie, qui est un faux-nez de LFI, qui officiellement est un think tank ouvert, mais dans les faits, d'ailleurs ils le revendiquent eux-mêmes, a une vocation très partisane, à la fois de formation, de colloques, organisation d'événements pendant leurs universités d'été, etc., etc. Donc, est constitué sous la forme d'un fonds de dotation, donc qui permet d'ouvrir à la défiscalisation. Ça, c'est l'article 200 du Code général des impôts, sauf qu'il y a des critères pour ça. Il y en a notamment deux. Premièrement, poursuivre un but d'intérêt général. Donc, il ne faut pas que ce soit principalement politique et partisan. Alors, la frontière entre intérêt général et politique, ça peut être compliqué à apprécier, hein. Et d'ailleurs, dans votre enquête croisée, vous avez noté toute une série d'associations politisées. Mais là, la particularité, c'est que c'est partisan et eux-mêmes le revendiquent. Donc ça, le premier critère, il faut que ce soit un intérêt général. Et deuxième critère, que ce soit l'association soit ouverte au public. Enfin, l'activité de l'association soit destinée au public. Or, l'Institut de la Boétie est destiné à des militants et cadres de la France Insoumise. Donc, ils forment entre 70 et 140 militants et cadres de la France Insoumise par an. Donc, c'est pour un public restreint. Voilà, donc toute la question est de savoir, est-ce qu'ils rentrent dans les clous ? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai saisi M. Amiel. D'ailleurs, au même titre que M. Coquerel, il y a à peu près un an, avait saisi le ministre des Comptes Publics au sujet de l'association... Alors, officiellement féministe et féminine, plus connue sous le nom de Némésis, parce que donc c'est une association qui bénéficie d'une défiscalisation. Ça avait fait l'objet d'articles de presse dans la gauche, dans Libération. Éric Coquerel donc, avait saisi le ministre des Comptes Publics pour voir si cette association remplissait ce critère d'intérêt général, voilà, en s'offusquant au passage qu'il puisse y avoir des fiscalisations pour cette association. Bon, là, la particularité de l'Institut Laboétie, c'est le côté partisan. Et en plus, on est proche des élections présidentielles, parce que je rappelle que depuis le 1er avril de cette année, les comptes de campagne des partis politiques sont ouverts pour les élections présidentielles. Donc il y a des règles encore plus particulières pour la Commission nationale des comptes de campagne.
Et alors justement, est-ce que vous comptez donc vous inspirer de notre cher Éric Coquerel en interpellant le président de la Commission des Finances comme lui l'a fait il y a un an ?
Ah ben, Monsieur Coquerel est président de la Commission des Finances, c'est à ce titre qu'il a saisi donc, le ministre des Comptes Publics. Donc de ce point de vue, il y a une sorte de parallélisme des formes. Alors je dois dire, pour être transparent, que le ministre des Comptes Publics ne peut pas diligenter un contrôle sur une association en particulier, parce que les contrôles sont menés par la Direction Générale des Finances Publiques, donc c'est du contrôle fiscal, et qu'il y a un principe de séparation des exercices entre le politique et les services fiscaux. Donc ce qu'il peut faire, c'est donner des orientations générales, c'est-à-dire par exemple dire à ses services, mettez l'accent sur des associations politisées de manière générale, mais il ne peut pas dire faites un contrôle sur cette association en particulier. Voilà, donc c'est vrai pour la saisine que j'ai faite du ministre sur l'Institut Laboétie, mais c'était vrai aussi pour Éric Coquerel, hein, qui avait saisi le ministre pour l'association Némésis.
Alors, la question directe, bien sûr, qu'on se pose, c'est concrètement qui pourrait agir sur l'Institut Laboétie, qui pourrait contrôler, et est-ce qu'il n'y a pas. Qui devrait exercer sa vigilance, finalement, sur ce sujet ?
Alors, c'est soit la Direction Générale des Finances Publiques, donc contrôle fiscal classique, soit la Cour des Comptes. Bon, là, c'est un peu plus rare parce que la Cour des comptes, en fait, programme d'ailleurs de façon autonome ses contrôles selon des critères divers et variés et qu'elle se fixe de manière autonome. Et parmi ceux-là, il y a le montant financier. Donc, je ne pense pas que ce soit une priorité pour la Cour des comptes. Ouais. En tout cas, c'est la Direction Générale des Finances Publiques. Mais on ne peut pas saisir directement... Enfin, en fait, un ministre, comme je le disais tout à l'heure, un ministre ne peut pas cibler une association en particulier. Il peut donner des orientations générales, dire faites plus d'investigations de manière générale sur les associations politisées, mais il ne peut pas dire contrôler l'Institut Laboétie.
Sauf dans un cas de dissolution, mais d'association.
Absolument. Oui, enfin là, c'est un cas très particulier.
On n'en est pas là non plus. Mais cela étant, oui, ce qui est étonnant, évidemment, c'est que Éric Coquerel, comme on l'a dit, ouais, est président de la commission des finances, ce qui ne manque pas d'ironie. Et à côté de ça, on va dire que la France Insoumise, c'est toujours le parti qui, depuis un an, tombe à bras raccourcis sur une certaine Marine Le Pen, en expliquant qu'elle est coupable de détournement de fonds publics, en expliquant que finalement le Rassemblement National ne peut pas se présenter, ne peut pas présenter de candidat pour ces raisons-là. Là, on a quand même une affaire hautement litigieuse qui s'apparente, en tout cas, on n'affirme rien ici, mais qui ressemble à un montage financier, presque un système, pour reprendre leur propre terme.
Bah écoutez, ça que LFI, enfin la gauche de façon générale et LFI en particulier s'appuie sur des grands principes pour attaquer ses adversaires, mais ne s'applique pas à eux-mêmes, c'est un classique. Enfin, c'est un classique pour la liberté d'expression, pour la liberté de manifester et effectivement pour l'utilisation de l'argent public. Bon, je rappelle, parce que vous avez fait référence à l'affaire dite des assistants parlementaires européens, que eux aussi étaient concernés. Donc il se trouve qu'il n'y a pas eu de preuves suffisantes pour montrer qu'il y avait un système équivalent. Et d'ailleurs, à l'époque, il faut le dire, l'intégralité des partis en Europe, d'ailleurs, pas seulement en France, hein, des partis en Europe utilisaient ce système. Et à la fin, on voit que par effet d'entonnoir, donc il y en a quelques-uns qui ont été inquiétés avec ouverture d'information judiciaire, et LFI en faisait partie, le Modem aussi, et que en bout de course, il y a que le RN qui a été condamné. Mais enfin, effectivement, oui, il profite des largesses du financement public, ça c'est évident. Bon, maintenant, pas de faux procès, enfin en tout cas pas de diffamation,
non,
j'ai envie de dire. Là, j'ai posé une question ouverte au ministre des Comptes Publics. Est-ce que ce système est légal? C'est vrai que quand on regarde les critères du Code général des impôts, ça passe donc, je répète, intérêt général et public ouvert, oui, et non pas public restreint. Manifestement, il y a quand même un problème.
Oui, voilà, parce que
donc, ça reste dans l'appréciation des services.
La question, dans le cas où, par exemple, il dirait public ouvert, bien sûr, n'importe qui peut bénéficier du programme La Boétie et assister aux conférences de l'Institut La Boétie, ça voudrait dire que, par exemple, des personnes comme vous, des personnes comme moi, devraient pouvoir participer à des programmes de l'Institut La Boétie.
Absolument, mais je crois qu'ils se cachent même pas, en fait, à la fois de leur objectif partisan. Quand on va sur leur site internet, ils disent que c'est une... alors, je n'ai plus les termes exacts, mais enfin, en gros, ils disent que c'est une machine insoumise. Enfin, le lien avec le mouvement la France Insoumise est clairement établi. Et eux-mêmes disent qu'il y a des actions de formation pour des cadres en nombre restreint. Donc, je veux dire, tout ça est assumé. Je vais prendre, par exemple, si vous faites un parallèle avec la fondation Jean Jaurès,
ouais,
qui est historiquement proche du Parti Socialiste.
Ouais.
Alors, ça a été beaucoup plus le cas d'ailleurs par le passé que récemment. Mmh. On a une structure qui est beaucoup plus indépendante. C'est vrai qu'il n'y a pas ces liens qui ont été établis dans l'enquête, notamment de Radio Courtoisie, sur effectivement des locaux communs avec le parti de gauche, une direction commune. Il y a aussi une contribution annuelle, enfin, c'est-à-dire que les ressources, quand vous prenez les ressources de l'Institut La Boétie, ça dépend à 88% de la France Insoumise.
Oui.
Vous avez une contribution annuelle de 1 million d'euros.
Mmh.
J'ai envie de dire que le lien entre la fondation et le parti politique est absolument évident. Et d'ailleurs, le parti, les partis, parce qu'il y a LFI et il y a aussi le parti de gauche.
Oui.
Le parti de gauche qui est le parti
qui
historique.
Qui existe toujours, alors qu'il n'est plus en campagne, mais qui est une structure.
Une structure qui existe toujours, qui a des locaux, manifestement. D'ailleurs, ça faisait partie de votre enquête. Il y a eu une donation d'1,5 million d'euros.
Oui, c'est ça, d'un immeuble, effectivement, voilà, qui appartenait au parti de gauche.
Exactement. Alors, on ne sait pas si c'est formellement l'immeuble ou pas, les 1,5 million d'euros, mais enfin, on peut penser que ça fait partie des points d'interrogation. Parti de gauche qui effectivement était la structure historique et elle-même peut recevoir des dons défiscalisés. Et il faut rappeler, enfin c'est l'occasion de rappeler que LFI en tant que structure, c'est une toute petite structure. Enfin, qui a de gros financements publics liés aux résultats législatifs comme tous les partis politiques, mais c'est une association composée de 3 membres.
Oui.
Ça, c'est assez rigolo de le rappeler. Il n'y a pas d'adhésion obligatoire.
Oui.
Et en fait, toutes les structures locales Alors, eux se revendiquent comme mouvement un peu autogéré, gazeux, etc. Ouais. C'est-à-dire que tout se fait localement, sans structuration juridique, de façon autonome. Le seul point, c'est évidemment l'allégeance à la personne de Jean-Luc Mélenchon et le respect de leur programme, l'avenir en commun. Mmh. Et enfin, dans les structures, en fait, c'est une structure hyper centralisée, oui. À la main de trois personnes. Oui. Donc, vous avez LFI, trois personnes, le parti de gauche et l'Institut La Boétie. Voilà, mmh. Ça, c'est un peu l'écosystème LFI.
Et tout ça semble fonctionner en cercle restreint, mais bon, c'est ce qu'on observera. Dernière question, il nous reste à peu près 2-3 minutes, Mathias Renaud. Évidemment, là, on est à un an de la présidentielle, vous l'avez dit. Ouais. Les comptes de campagne ont été ouverts. Déjà, beaucoup de gens se posaient la question de savoir si les concerts de LFI pour la fête de la musique
exactement.
Étaient déjà comptés dans les comptes de campagne. Parce
vraie question. Vraie question.
On n'a pas encore la réponse, mais le parti a été largement interpellé à ce sujet. On voit que Jean-Luc Mélenchon veut mettre les bouchées doubles durant cette élection. Cette affaire de l'Institut de la Boétie, est-ce que ça peut pas poser un problème pour la présidentielle, notamment alors que, évidemment, c'est un institut qui a pour objectif en partie de vraiment former les cadres insoumis.
Bah, évidemment qu'il y a un risque. C'est-à-dire que si l'activité de l'institut, s'il s'avère que l'activité de l'institut vise à former le candidat ou les comptes de campagne ou propose des événements qui font la promotion du candidat ou qui permettent de contourner. D'ailleurs, c'est un risque compte de campagne, mais c'est aussi un risque de manière générale, contourner les règles de plafonnement de dons des partis politiques. 7 500 € par personne par an, je rappelle. Ça c'est déjà des critères assez importants. Évidemment, il y aura un risque de financement illégal de partis politiques dans le cadre des comptes de campagne. Donc il faut être très attentif à l'activité depuis le 1er avril et pour les prochains mois de l'Institut La Boétie pour voir si, effectivement, ça peut être considéré comme le concert. Hein. Le concert, vous avez tout à fait raison de revenir sur ce point. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez Mélenchon sur une estrade qui fait un discours politique, on peut se dire que c'est la promotion d'un candidat pour l'élection présidentielle, donc l'organisation matérielle doit rentrer dans les comptes de campagne. Enfin, ça, c'est une vraie interrogation. Bon, peut-être qu'ils le feront, hein, mais c'est vérifié. En tout cas, sur l'activité de l'Institut La Boétie, évidemment, il faut être très attentif à cette activité dans les prochains mois.
Effectivement, bah écoutez, évidemment, vous savez que nous, on le sera, Mathias Renaud. Évidemment, dans tous les cas, on a même pas eu le temps de parler de toutes ces autres associations de gauche qui, elles aussi, évidemment, touchent des subventions ou se défiscalisent sans être forcément de cet intérêt général. Merci d'avoir été à notre antenne ce matin et d'avoir saisi donc ce ministre des Comptes. Écoutez, peut-être qu'on aura des réponses, qui sait, et peut-être que LFI n'est pas non plus un modèle de probité. Ça choquerait, je pense, tout le monde à cette antenne. Merci beaucoup, Mathias Renaud.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, c'est la fin de Ligne Droite pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Simplement, nous aurions une requête avant de vous laisser partir. Cette requête, c'est que vous nous aidiez à conserver notre indépendance.
Voilà, et n'oubliez pas que l'été est une période difficile pour Radio Courtoisie puisque beaucoup de gens sont en vacances et n'ont pas la tête à nous aider. Ils n'y pensent peut-être pas. Alors, faites-le avant de partir, c'est plus simple. Ouais. Soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Faire avant d'aller consulter Bison Futé ou autre réjouissance de l'été.
Voilà, exactement. Et ça peut être une pièce de 2 €, comme ouais. Ça peut être
une pièce de 3,
une pièce de 10 000 euros, enfin, comme vous le sentez. Mais voilà, quel sera le programme du jour, Franck ?
Alors, dans quelques instants et en direct au fil des pages de Benoît Mancheron pour aujourd'hui, Marie est-elle la coopératrice de son fils pour notre salut ? À midi, le libre journal du Nouveau Monde d'Evelyne Josselin, de l'insurrection des 13 colonies à l'indépendance, les débuts de la jeune Amérique. À 17h tout à l'heure, le RCMAC de Jean-Étienne Posa, vertical, l'excellence française face à la tempête avec Alexandra Zochfer. 17h30, Restons courtois, aujourd'hui animé par Arthur de Vatrigan. 19h30, le libre journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafond pour la Suisse face à l'impérialisme de l'Union européenne. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer, un document d'archives sur les grandeurs et misères de Guillaume Brune. Enfin, à 23h, en compagnie d'Aline, la soirée musicale consacrée au ballet et à la créature de Prométhée opus 43 de Beethoven.
Eh bien super, merci beaucoup Franck. Nous, on se retrouve demain pour,
7h.
Demain 7h pour parler un petit peu bien-être animal et parler des nouvelles révélations de Radio Courtoisie et d'autres médias sur les associations de gauche. Soyez bien présents.
À demain 7h.